Je propose de lire dans l'évangile de Jean au chapitre 14. C'est un passage qui m'a travaillé tout le mois de juillet. Voilà, et donc ce que je vous propose, c'est simplement le fruit de ma petite méditation, tout simplement, sans grande prétention. C'est ce que le Seigneur me disait à moi personnellement, que je vous transmets comme une espèce de témoignage, n'est-ce pas ? Alors on va commencer par le verset 18, mais on va reprendre tout le texte ensuite. Le verset 18 du chapitre 14 dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous. Mais avant d'aller plus loin, il faut que quand même, ça c'est normal, il faut se remettre dans le contexte pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Les disciples sont troublés. Ils étaient troublés. Ils venaient de vivre un moment inoubliable. Juste avant de manger le repas de la Pâque, c'était à cette occasion qu'ils étaient réunis, Jésus avait fait un geste remarquable. Lui, le maître, il s'était ceint d'un linge, il avait pris un bassin, l'avait rempli d'eau, et puis il s'était abaissé pour laver les pieds de chaque disciple. Mais ce n'est pas pour cela que les disciples avaient le cœur troublé. Non, c'est à cause de ce que Jésus leur annonce. Alors qu'ils étaient à table, un peu plus tard dans la soirée, il a parlé d'une trahison. « L'un de vous me trahira. » Jean chapitre 13, verset 21. Alors on peut aisément imaginer la perplexité des disciples. C'était une bombe, n'est-ce pas, au milieu d'eux, dans ce moment d'intimité avec Jésus. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule bombe qui va lancer Jésus durant cette soirée. Jésus a continué en disant, « Mes petits-enfants, je ne le dis peut-être pas avec le bon temps, mes petits-enfants, c'est la première fois que Jésus emploie ce terme par rapport à ses disciples. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et c'est ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis maintenant à vous. » Il y avait quand même de l'intensité et une charge émotionnelle dans ces paroles. Oui, c'était la première fois que le maître employait ce terme d'affection, mes petits-enfants, en parlant à ses disciples. Puis il ajoute quelque chose que je pense qu'on va travailler durant le week-end de rentrée. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc en d'autres mots, Jésus venait de leur annoncer, à ses disciples qui venaient de vivre un temps quand même incroyable, Jésus venait de leur annoncer qu'il allait partir, qu'il s'en allait. Je m'en vais. Alors Simon-Pierre l'a interrompu. Vous connaissez Simon-Pierre, hein ? Celui qui met les pieds dans le plat chaque fois. « Mais où vas-tu ? » Jésus lui répond, « Tu ne peux pas me suivre là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Et Pierre a répondu, un peu comme un enfant têtu, il a ce caractère là d'un peu d'enfant têtu, Pierre, hein, et puis un but de la force de sa volonté. « Et pourquoi je ne te suivrai pas maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Et là, Jésus de prédire sa lâcheté et son reniement trois fois. Et puis, Jésus reprend le fil de sa pensée, se mit à parler à tous. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Tu connais parfaitement qui nous sommes. Nous avons le cœur si facilement troublé. Et certainement, nous avons des bonnes raisons pour être si aisément agités. Seigneur, merci de nous parler avec affection encore ce matin, avec amour. Nous appelons nous aussi tes petits-enfants. Et de nous donner de bonnes raisons à te faire confiance. Seigneur, ancre les vérités de ta parole dans nos cœurs. Qu'elle soit le rocher sur lequel nous nous appuyons dans notre quotidien. Amen. Alors, chapitre 14, et on va lire les versets 1 à 27. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous, avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole de Dieu. Alors on peut comprendre vraiment pourquoi les disciples étaient complètement chamboulés. Ils avaient bien entendu ce que Jésus disait, mais ça restait flou encore pour eux. Jésus leur annonce qu'il s'en va, mais ils ne savent pas trop où ni pourquoi. Nous, aujourd'hui, avec le recul, on sait où il allait. Où allait-il ? Jésus allait rejoindre le Père en passant par la croix. Pour racheter les hommes de leurs péchés, on l'a chanté ce matin. Et puis, nous connaissons ce petit clin d'œil de l'évangile de Jean. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Marie de Magdala après la résurrection. « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Où Jésus va, il va vers le Père. il va vers le Père. Les disciples se retrouvent donc déconcertés. Que ce soit Pierre, Philippe, Thomas et Jude, au travers de leurs questions, ils ont de la peine à comprendre. Et même nous, je dirais des fois, ce texte nous paraît un peu énigmatique. Hein ? Mais on peut ressentir le désarroi des disciples. Le monde qu'ils connaissaient était en train de s'effondrer, avec un profond sentiment d'abandon, un bouleversement de tous leurs repères. L'avenir, qui pourtant leur semblait si prometteur, Jacques et Jean étaient venus voir avec leur mère Jésus, « Si quand ton royaume sera là, fais-nous asseoir à ta droite et à ta gauche. » Mais là, l'avenir leur semble soudain, de manière soudaine, obscure, sans sécurité. Et puis, Jésus comprend bien ce que ressentent les disciples, ce sentiment d'être un peu, en quelque sorte, orphelin. Jésus était leur vie, ils avaient tout quitté pour lui, leur famille, leur maison, leur barque, leur filet, leur profession, bref. Que ferait-il une fois que Jésus allait partir, puisque Jésus annonçait qu'il allait partir ? Je m'en vais. Qu'est-ce qui pourrait combler le vide laissé par Jésus ? Alors oui, ils avaient des bonnes raisons pour avoir le cœur troublé. Ils avaient de bonnes raisons pour avoir ce cœur tourmenté. Face à l'inquiétude de ses disciples, Jésus adopte une attitude profondément bienveillante, je dirais comme celle d'un frère aîné, soucieux de réconforter les siens. Alors ce n'est pas sans raison qu'il y a des tas de marque-pages, des feuillets en grand nombre de nos calendriers qui reprennent les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Hein ? Et il nous arrive aussi, nous, après des siècles, d'avoir aussi le cœur inquiet et troublé, n'est-ce pas ? Et même pendant les vacances. Et les raisons et les causes ne manquent pas pour avoir le cœur troublé. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre ces temps-là. Nous vivons dans un monde qui connaît ses difficultés. Allumez la radio et vous, simplement, vous aurez des tas de raisons pour être inquiet. Hein ? Le temps messianique, bien qu'inauguré par Jésus, n'est pas encore là. Nous sommes dans le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Alors que ce soit les deuils, la maladie, la nôtre ou celle de nos proches, les défis personnels, les fins de mois difficiles, les émotions de solitude ou d'incompréhension, la vie de nos sociétés ou même nos propres questionnements spirituels, chacun d'entre nous peut se sentir préoccupé, décalé et troublé. Souvent, ma propre vie spirituelle me semble un petit peu fadasse. Je n'ai pas le succès auquel je pourrais attendre en tant que chrétien. Et comme l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est mon expérience au quotidien. N'est-ce pas votre expérience au quotidien ? Bon, bref, j'arrête là, parce que je ne veux pas que nous quittions cet endroit découragé ou abattu, parce que je serais à passer à côté de ma prédication, n'est-ce pas ? Oui, il existe de nombreuses raisons pour avoir le cœur troublé, mais Jésus nous appelle à ne pas rester prisonniers dans ses inquiétudes. Alors regardons ensemble, si vous le voulez bien, comment Jésus nous propose de traverser ces moments de trouble ensemble. Et Jésus commence par une exhortation à la confiance. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Alors durant mon ministère, c'est mon expérience, j'ai souvent tenté de réconforter ceux qui venaient me voir avec mes propres mots, n'est-ce pas ? Mais j'avais l'impression que mes mots manquaient d'impact, hein, que ce n'était, et ce n'était certainement pas qu'une impression. Mes paroles étaient mes paroles, celles d'un homme faillible, fragile, n'ayant aucune puissance en elle-même. Jusqu'à ce que je comprenne que seul l'Évangile offre les paroles dont chacun a réellement besoin. Pierre le dit, « Où irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors lorsque, dans mon conseil pastoral, je n'allais pas dire mais les paroles de mon propre fond, j'avais à redire non pas ces paroles-là qui venaient de moi, mais celles qui viennent de l'Évangile. Redire les paroles de l'Évangile. Je n'avais pas à inventer, je n'avais pas à essayer de trouver quelque chose en moi pour réconforter, pour conseiller. J'avais à dire et à redire dans la foi, avec la sagesse que donne l'Esprit Saint, bien entendu, hein, et puis aussi à propos, sinon on devient moraliste, ce que Jésus a enseigné. Oui, sans que je sois donneur de leçons ni moraliste, la personne à conseiller et moi-même, nous nous mettons ensemble devant la parole de vérité, cette parole seule qui donne la vie. Alors, est-ce que nous, dans notre quotidien, nous voulons aider les uns et les autres, conseiller d'autres personnes ? Alors, juste un conseil d'un vieux frère, ne négligez pas de lire pour vous-même la parole de Dieu pour pouvoir la redonner au moment voulu, au moment opportun. Alors, s'il y a bien la puissance de la parole vivante du Christ qui dit à ses disciples « que votre cœur ne se trouble pas », il y a encore d'autres raisons que Jésus va amener à ses disciples pour rétablir une confiance. Et voici quelques raisons que Jésus met en avant pour construire la confiance. Première raison, Jésus rappelle à ses disciples qui il est. Et Jésus nous rappelle à nous, ici, maintenant, qui avons peut-être le cœur troublé, qui il est réellement. Les paroles de Jésus tirent leur puissance dans l'identité de celui qui les dit. Je peux avoir confiance en les paroles de Jésus, car lui et le Père sont un. Amen. Alors, les traducteurs de la Bible, petit problème exégétique, ont rencontré un problème au sujet de leur traduction, puisque la forme du verbe « croire » est identique à l'impératif et à l'indicatif. Alors, ils avaient plusieurs options pour traduire le texte. Utiliser deux indicatifs. Vous croyez en Dieu, vous croyez en moi. Ou deux impératifs. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou alors faire un mixte des deux. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. L'ordre impératif suivi de l'indicatif n'a pas été retenu. Bon, je vous laisse aller. Vous allez voir les profs de français, vous allez voir Chantal, pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'indicatif, l'impératif, n'est-ce pas ? Alors, la traduction qui m'a paru la plus convaincante est celle-ci. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les disciples, la foi en Dieu, ça fait partie de leur histoire, de leur culture. Ils connaissent le Shema Israël depuis tout petit, c'est leur confession de foi. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Un juif croit en Dieu. Et même un juif athée aujourd'hui dira « Non, je ne crois pas en Dieu, Dieu merci ». Bizarre. Hein ? Mais là, Jésus va leur dire quelque chose d'énorme. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. De la même manière que vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est énorme parce qu'il est en train de leur dire que la confiance qu'ils pouvaient avoir en Dieu dans le ciel pouvait être aussi leur confiance qu'ils avaient en lui. Jésus est vraiment Dieu venu en chair parmi les hommes. Et ça cadre parfaitement avec ce que Jean écrit au début de son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et voilà, c'est ça l'idée qu'il va développer dans ses réponses à ses disciples. Et il va multiplier ses déclarations concernant la relation qu'il a avec son Père. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas, Philippe, que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. » Alors oui, Jésus est digne de confiance. Ses disciples peuvent se trouver en sécurité avec lui. Ils n'ont aucune raison de douter de sa fidélité, de son beauté, de sa affection pour tous les hommes et pour chacun en particulier. y compris et en premier pour les petits, pour les laisser pour compte. Jésus sait ce qu'il fait, et c'est pour eux qu'il le fait. S'il s'en va, c'est pour eux. S'il part, c'est pour eux. C'est d'ailleurs plus tard, il dira, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » De même, pour nous, dans nos situations, nous avons à apprendre à lui faire confiance, surtout quand nos cœurs sont troublés. Il ne faillira pas, car il est Dieu et qu'il nous comprend, car il fut et reste homme dans le ciel. Il nous gardera, il nous gardera, il sera avec nous. Il est Dieu, lent à la colère, riche en miséricorde. Il est pour nous notre Seigneur, notre Jésus. Nous pouvons lui faire confiance. Deuxième raison, Jésus nous rappelle son œuvre. Il nous a préparé une demeure et une place. Et lorsque je m'en serai allé, dit-il, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus dit à ses disciples qu'il allait leur préparer un endroit où ils vivraient éternellement avec lui. Et cette prise de conscience de cette perspective apporte du réconfort au cœur troublé de ses chers disciples. Vous savez, ça me touche souvent quand je réalise à quel point on cherche tous un endroit où se poser, un refuge, un lieu sûr. Même tout petit, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit, quand on vous donnait deux chaises et un drap, vous construisiez une cabane. Enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais moi. Je ne pouvais pas faire plus loin. Il y a des scouts, anciens scouts, hein, qui construisent des cabanes dans les bois et tout ça. Moi, j'étais incapable de faire ça. Une chaise, un drap, deux chaises et un drap, ça me suffisait pour faire ma cabane. Les orphelins eux-mêmes cherchent des foyers. Et c'est exactement ce que Dieu nous promet, mais encore en encore plus grand. Jésus nous prépare une vraie maison, la maison du Père. Et comme le dit si bien C.S. Lewis, si je trouve en moi un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend. Prenons la parabole du fils prodigue. Florence nous en a parlé ce matin. Ce jeune à bout de ressources qui avait quitté la maison paternelle finit par dire « Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Le fils prodigue ressent le manque, le vide et il se rappelle qu'il y a un endroit où être accueilli. N'est-ce pas magnifique ? Alors moi, je me souviens d'une anecdote avec Chantal. On venait de se marier. Un soir, je rentre à la maison et je vois un mot sur la table. Normalement, Chantal aurait dû être à la maison, mais il n'y était pas. Le mot disait « Un jour, je ferai ma valise et je partirai pour toujours. » Alors, j'ai eu un coup de chaud. J'étais en train de me décomposer peu à peu quand finalement Chantal a ouvert la porte. Et elle m'explique qu'en fait, elle était en train d'écrire un chant. J'ai été rassuré. Et aujourd'hui, après 47 ans de mariage, Chantal m'a toujours pas fait ses valises. Merci Seigneur. Et on continue le chemin ensemble. Mais vous voyez, la maison du Père, ce n'est pas juste un endroit pour plus tard. C'est aussi un refuge pour aujourd'hui. C'est là où je vais quand j'ai besoin de réconfort. C'est là où je vais quand j'ai besoin d'affection ou même de retrouver qui je suis, simplement. C'est ce lieu qui m'aide à avancer, à changer, à grandir dans la foi. L'idée de la maison, c'est un thème récurrent dans la Bible. Adam et Ève sont chassés de leur maison d'Éden. Caïn est chassé à cause de son péché et de son meurtre. Les hommes veulent construire une ville, une tour. Et les héros de la foi en Hébreux 11, qui errent pourtant sur cette terre, ils errent parce qu'ils cherchent la cité céleste qui les attend. Abraham, dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Jésus, et nous a préparé une place dans la demeure de Dieu. Il y a de nombreuses maisons chrétiennes qui ont des noms issus de ce thème. Par exemple, l'abri, hein, Elisabeth Schaeffer. Tu t'es convertie à l'abri. Hein. Plus près de nous, on a aussi la maison des parents. Hein. Pensez à cette maison céleste, à cette cité que Dieu construit. Ce n'est pas vouloir fuir le monde ou chercher la mort. Non, c'est garder les pieds sur terre et le cœur tourné vers la promesse. On sait qu'il y a une place pour nous et ça donne de l'assurance pour marcher chaque jour, n'est-ce pas ? Alors, il y a des conséquences pratiques à cette pensée de la maison céleste. Et je peux citer, sans être exhaustif, le détachement des choses matérielles. Ne serait-ce que ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes les choses vous seront données par-dessus. À quoi ça sert d'acculer trésor, richesse, si on perd son âme ? Encore, entre autres, la confiance quand la route est difficile. Témoignage du cousin de Florence qui a vécu un mois en tant que chrétien. Ça a de la valeur. La sérénité quand le chemin est facile. On a marché pas mal au mois de juillet avec Chantal. Quand il faisait chaud, quand il faisait froid, à l'Espérou, il a fait froid, il a fait 9 degrés pendant qu'à Nîmes, il faisait 36. Et on savait à la maison, eh bien, il y aura le frigidaire avec l'eau fraîche. Et pendant notre chemin, on tirait la langue pour arriver à cette maison. Mes amis, ce qui nous rassemble, ce ne sont pas nos histoires ou nos origines. On vient de milieux différents. Mais c'est notre destination commune qui fait le pourquoi de notre rassemblement. Nous allons ensemble à la maison du Père. Hein ? On est en route ensemble vers cette maison, la richesse de la communauté. Je ne connais pas tout le monde. Et si vous n'avez pas trouvé encore la maison du Père, et si vous vous sentez orphelin ce matin, si vous avez le cœur troublé, venez à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Troisième raison, je vais aller plus vite. Il nous donne une perspective. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres aussi que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors qu'il cherche à encourager les disciples au cœur troublé, ces orphelins, ces petits-enfants, qui sont coupés d'une vision d'avenir, Jésus leur donne une perspective. Ils sont appelés à poursuivre l'œuvre de Jésus et à en multiplier les fruits là où ils seront, de plus grandes œuvres. Car oui, Jésus, en partant, en les laissant, ne laisse pas les disciples sans avenir. Ils ne sont pas dans une impasse. Ils ne sont pas finis. Ils ne sont pas out ou off. Ils feront les œuvres de Jésus. Ils prieront et demanderont. Ils garderont sa parole et ses commandements. C'est un package qu'il ne faut pas dissocier. Alors écoutez bien, pour bien que dans votre cerveau, vous puissiez mettre cela quelque part. C'est un package qu'il ne faut pas dissocier au risque de transformer sa prière en une sorte de lampe d'Aladin, au risque de transformer le service de Jésus en acte de gloriole personnelle, au risque de transformer la fidélité en Jésus en forteresse moraliste, n'ayant plus d'impact sur notre monde d'aujourd'hui. J'étais très fier de cette phrase. Voilà, merci. Mais bon, j'espère que vous l'avez compris, hein, sinon je vous le redonne. Voilà. Ne pas dissocier ce que Jésus leur dit, la prière, l'œuvre et la garde des commandements. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui ont le cœur troublé parce qu'ils n'ont plus de vision d'avenir ou de perspective pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils sont laissés sur le bord de la route, parce qu'ils sont arrêtés de différentes raisons, le sentiment d'être usé peut-être l'âge, la santé, l'handicap, le travail, le temps, les finances, que sais-je encore. Il est temps de voir que Jésus n'en a pas fini avec toi. Tu n'es pas en dehors de son plan, tu es en plein dedans, inclus dans son projet, dans cette histoire de salut en marche. Amen. Alors, quatrième raison, et je terminerai par là, il vient à nous par son Esprit Saint. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus viendra à nous. On peut aussi traduire par « je viens à vous », comme un présent continu. Quand nous avons besoin, lorsque nous nous sentons orphelins, Jésus vient encore à nous. Jésus vient à ses disciples par l'Esprit Saint, envoyé par le Père à sa demande. Certains ont peut-être dans leur version le paraclet. Je vous envoie le paraclet traduit par consolateur, avocat ou encore défenseur. Le paraclet, c'est une personne qui se tient à côté d'une autre personne pour plaider pour lui, pour défendre sa cause, pour parler pour lui. Mais Jésus va dire, non simplement je vous envoie un consolateur, mais il dit, je vous envoie un autre consolateur. Et le terme grec utilisé, ça veut dire un autre du même genre que lui. Un autre du même genre que lui. Et c'est important de comprendre cela parce que cela signifie que l'Esprit Saint qu'il nous envoie continue l'œuvre de Jésus dans le même sens. Et on comprend que Jésus est déjà ce consolateur, est déjà ce défenseur, celui qui se tient à nos côtés. Et c'est comme ça qu'on lit l'Évangile, hein, n'est-ce pas? Et l'Esprit Saint est un autre consolateur avec la même mission, nous accompagner, nous enseigner, nous défendre, nous consoler. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ en Romains 8. Cela montre une vraie continuité entre le travail de Jésus et le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas une force lointaine, mais vraiment la présence vivante de Jésus-Christ qui agit avec la même compassion et la même autorité. Et ce qui est formidable, c'est que l'Esprit Saint, il reste avec nous. Il ne s'en va plus. Il vient habiter avec les croyants. Jour après jour, il vient demeurer dans celui qui croit en Christ. Alors, je cherchais sur Internet quelques éléments de la psychologie des orphelins. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais demandé à Nathan, à Bastien de nous en parler. Ils ne sont pas là. Je pense que ça faisait partie de leur formation, puisque Jésus emploie vraiment ce terme orphelin. Et au cours d'une de ces lectures, je suis tombé sur un vocabulaire que je ne connaissais pas. L'article parlait de tuteur de résilience. Un tuteur de résilience est une personne qui aide les individus à reconnaître, à valoriser et à développer leur résilience. Il joue un rôle crucial, c'est ce que disait l'article, en tant que référence dans l'environnement social, favorisant le rebond et notamment sur le plan professionnel. Ces tuteurs soutiennent également les enfants en offrant aide et affection qui est essentielle dans leur développement. Ils se concentrent sur les aspects positifs des individus et croient en leur potentiel, les aidant à découvrir, à le découvrir et à le faire croître. On pourrait dire, si on avait une traduction moderne, entre guillemets, que le Saint-Esprit est comme un tuteur de résilience pour ses disciples. Mais à la différence des tuteurs extérieurs, comme peuvent être des personnes qui sont des personnes ressources pour les autres, l'Esprit Saint fait sa demeure à l'intérieur du croyant. Il n'essaie pas de faire ressortir nos énergies ou nos qualités personnelles. Parfois même, il les bride un peu. Mais il nous donne vraiment la force et l'énergie. Il nous équipe. Il prend ce qui est à Jésus, notre grand frère, et puis nous le fait nôtre. Il nous transforme peu à peu en l'image de notre grand frère. Il nous permet de goûter dès maintenant à la joie et à la paix promise de la maison du Père, celle qui attend chacun d'entre nous. Et voilà une raison supplémentaire pour ne pas demeurer le cœur troublé. Le Saint-Esprit est à côté de nous, en nous, pour nous amener à grandir et à croître. N'est-ce pas formidable, n'est-ce pas? Alors pour conclure, parce qu'il me faut conclure, je n'ai pas trop parlé, j'aimerais qu'on retienne ceci. Même quand tout semble obscur ou bloqué, quand notre cœur est troublé ou que l'avenir paraît sans issue, n'oublions pas que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est l'alpha, l'oméga. C'est lui qui dit le dernier mot. Il est digne de confiance. Il nous ouvre la maison du Père et là nous trouvons notre vraie place. Il est le chemin et il nous rappelle que nous sommes inclus dans son dessein de salut. Que nous soyons estropiés, âgés, handicapés, nous avons notre place dans ce plan de salut. Il vient à nous, il nous accompagne par l'Esprit Saint, ce tuteur intérieur, ce consolateur fidèle qui demeure au cœur de nos vies pour nous fortifier, nous transformer et nous rappeler l'Évangile. Amen. Amen. On va prier et puis nous prendrons la Sainte-Cène et je demanderai à Anne-Laure de venir présider à cette Sainte-Cène. Seigneur, merci pour ta parole, elle est riche, elle est incroyable. Seigneur, merci parce qu'elle a le pouvoir, parce qu'elle est vivante, de vraiment de mettre de la paix dans nos cœurs. Et Seigneur, nous te demandons de le faire. Seigneur, je ne connais pas toutes les situations des uns et des autres. Peut-être certains ont le cœur léger, d'autres peut-être ont le cœur troublé. Et vraiment, je te demande par ton esprit de venir. Viens, comme ta promesse. Viens parmi les cœurs troublés, affirmer ta présence aux côtés. Viens rappeler qui tu es, Seigneur, digne de confiance. Viens rappeler qu'il n'y a personne qui est au bord de la route. Viens toucher le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin d'être touchés dans leurs troubles. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es bienveillant. Et simplement, ta grâce, c'est ta grâce dont nous avons besoin, Seigneur. Viens, et ta promesse, et je viens. Merci parce que tu te promènes là, dans les rangs, près de chacun, et tu parles, tu fortifies, tu consoles. Merci Seigneur. Amen.